Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, je reçois Fabrice d'Almeida. Fabrice, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu nous présenter deux ailes allemandes, c'est ainsi que nous avons voulu désigner cette émission, deux aviatrices allemandes, Anna Reitsch et Elie Beinhorn. Fabrice, ces deux personnages sont représentatrices d'un monde qui est finalement peu connu, qui est le monde féminin au sein de l'aviation. Et pourtant, les femmes sont bel et bien présentes dans l'aventure de l'aviation dès les premières années.
Oui, c'est un petit peu le paradoxe, c'est que l'essentiel de l'aviation et surtout de l'aviation de transport après l'épisode de la Première Guerre mondiale va se jouer dans les années 20-30. Or, c'est le moment, l'un des moments forts de l'émancipation des femmes, de l'entrée des femmes dans la vie active et de la revendication de ces femmes d'activités qui soient équivalentes, voire supérieures, enfin de performances équivalentes, voire supérieures à celles des hommes. Or, il se trouve que l'Allemagne va être à ce titre tout à fait intéressante. D'autant plus intéressante que, vous vous souvenez, en 1919, les femmes y obtiennent le droit de vote. Dans les années 20, elles vont avoir tout un tas d'activités à la fois dans le domaine du journalisme, dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, et elles vont véritablement entrer dans le domaine public. Or, il se trouve qu'à partir de 1933, avec le régime nazi, théoriquement, pour reprendre les mots d'ordre de l'époque, les femmes devaient s'occuper de Kinderkirche Küche, c'est-à-dire des enfants, de l'église et de la cuisine, et donc rentrer au foyer. Or, quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'elles continuent leur carrière d'aventurière et que, même paradoxalement, le régime va être pour certaines d'entre elles l'occasion d'une formidable promotion. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de mettre en avant ces deux profils que sont Elie Beinhorn et Anna Reitsch. D'abord parce qu'elles sont véritablement des pionnières et puis qu'elles manifestent différentes qualités qu'on a tendance à oublier de cet entre-deux-guerres, des qualités de voyage, des qualités de l'art pour l'art. Et puis en même temps avec Anna Reitsch, une volonté d'efficacité, de service patriotique, tout à fait fanatique. J'utilise à dessein le mot, puisque vous savez que pour les nazis, le terme de fanatisch était un compliment.
Alors, historiquement, Elie Beinhorn vient avant Anna Reitsch.
Oui, elle est née un peu plus tôt qu'Anna Reitsch, puisque Anna Reitsch est née en 1912 et Elie Beinhorn est née en 1907. Et elle va vivre dans la région de Hanovre. Et elle va assez tôt, hein, puisque c'est en 1928, pour la première fois qu'elle est en contact, donc à 21 ans, qu'elle est en contact avec un aviateur qui vient faire un exposé dans sa ville et qui, en quelque sorte, vient dire l'extraordinaire aventure que représente le pilotage. Et elle décide d'aller sur un terrain d'aviation pour y prendre sa première leçon, pour y avoir en quelque sorte son baptême de l'air. Et elle va se rendre donc à l'hiver 1929 à Würzburg, où on va lui permettre de passer son permis A de pilote donc amateur, où elle va être là avec différents, en quelque sorte, parrains qui vont jouer un rôle non négligeable dans l'histoire de l'aviation allemande. Anciens combattants, généralement, de la Première Guerre mondiale. Il y aura là le général Ritter von Greim, qui va par la suite devenir le général en chef de la Luftwaffe, qui sera en 1945, on y reviendra peut-être, le remplaçant Göring comme ministre de l'aviation allemande. Et puis, elle va y voir, sur le terrain d'aviation, un copain de Göring, Ernst Udet. Et Ernst Udet, eh ben, la voit voler et quelques années plus tard, à son tour, il sera inspecteur général de l'aviation allemande, de la Luftwaffe. Il sera général avec un extrêmement haut grade dans l'armée allemande. Et donc, il va avoir l'occasion, lui aussi, de promouvoir les femmes dans les unités d'aviation du Troisième Reich.
Comment passe-t-on du statut d'amateur à ce statut de record woman, parce qu'elle deviendra une record woman?
Oui, on pourrait dire en quelque sorte qu'il y a une carrière d'aventurière. Qui se dessine. Une carrière d'aventurière dans la mesure où, voilà, toute jeune, pionnière, 21 ans, et avec évidemment comme horizon l'horizon de l'aviation de cette époque. C'est-à-dire, ce n'est pas encore un moment où on peut penser qu'on va être pilote de ligne avec des lignes qui seraient bien établies. Non, il faut se souvenir qu'à cette époque, on est encore en train d'établir les lignes. Il n'y a pas Air France. Ça n'existe pas. Il n'y a pas ces grands réseaux qui vont se mettre en place. Donc, quand on ouvre le journal, qu'on est une jeune fille de 21 ans, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens qui sont à l'aventure, qui essayent de faire des lignes de courrier postal, qui essayent de gagner en quelque sorte du terrain avec des avions assez fragiles, assez faibles. Et donc, elle a très vite l'envie de participer à cette aventure.
C'est une non-conventionnelle ?
Oui, je pense que... On peut discuter puisqu'il y a là une affaire de génération et qu'il y a plusieurs femmes qui rentrent là-dedans. En 1930, il y a un championnat des femmes qui volent, où il y a des figures imposées, etc. Mmh. Elle va s'y présenter, d'ailleurs elle va rater parce qu'elle n'aura pas bien retenu les figures imposées et elle aura voulu faire un programme trop libre par rapport à ce qui était exigé. Mais disons qu'il y a quand même un effet de génération, c'est-à-dire il y a quand même l'émancipation de ces femmes des années 20. Mais il y a chez elle la volonté d'aller plus loin, la volonté vraiment de s'affirmer pleinement comme sujet, c'est-à-dire comme femme qui peut prendre en charge un aspect important de la vie sociale. Et au fond, elle veut faire une expédition, elle va avoir l'idée de faire de la publicité aérienne, puisque vous savez que quand un avion passe dans le ciel à l'époque, c'est une attraction tout à fait forte, encore aujourd'hui, sur nos plages, l'été, on voit ça. Donc elle va faire quelques mois comme ça, quelques semaines de pilote publicitaire pour une firme de bière, ce qui va lui permettre de gagner un premier argent pour essayer de monter une expédition. Et elle va là essayer de faire une première expédition scientifique vers l'Afrique en 1931 et tout de suite, j'allais dire, c'est le début de sa carrière vraiment d'aventurière puisque elle va réussir à faire sa mission, mais sur le retour de sa mission, son avion tombe en panne, elle a une rupture de moteur, elle est obligée d'atterrir et elle se retrouve en pleine savane, en pleine jungle. Et elle n'a pas les moyens de revenir. Donc elle va errer pendant 5 jours sans savoir exactement quelle est la direction qu'elle peut prendre. Finalement, elle va être aidée par des indigènes, des natifs qui vont lui indiquer la route, qui vont lui permettre de rejoindre Tombouctou. À Tombouctou, elle va pouvoir monter une expédition pour essayer de récupérer son avion. Mais en fait, elle ne pourra récupérer que quelques pièces, finalement, du moteur, qu'elle ne pourra pas donc revenir en Allemagne en avion. Donc elle est obligée de prendre le train, puis le bateau. Mais ce dont elle ne s'est pas rendue compte au fond pendant ces jours où elle est perdue dans la jungle, c'est qu'entre-temps l'alerte a été donnée, qu'il y a l'idée qu'une femme aviatrice est perdue. Mmh. Donc vous voyez tout de suite comment les journaux et la presse de l'époque peuvent utiliser cet événement pour en faire un fait divers qui attire et qui attise la curiosité des lecteurs, perdue seule dans l'Afrique noire et sauvage. Vous imaginez les titres qu'on peut faire à l'époque. Et donc voilà. Elle a, c'est le point de départ, ça va la rendre célèbre. Ça la rend suffisamment célèbre pour qu'on lui commande des articles, pour qu'on lui commande des interviews, pour qu'elle gagne un petit peu d'argent avec ça et qu'elle puisse envisager son projet qui est, au fond, de faire le tour du monde en avion, d'être la première femme à faire un tour du monde en avion, en solitaire. Donc vous imaginez, on écoutait ces derniers jours, il y avait la route du Rhum en 6 jours. Elle, ça va lui prendre faire le tour du monde en avion, ça va lui prendre 6 mois, même plus de 6 mois, puisqu'elle part au début du mois de décembre 1931 et qu'elle revient à l'aéroport de Berlin le 26 juillet 1932. Elle est de retour dans la mère patrie où elle va être fêtée comme une héroïne. Mais peut-être il faut s'arrêter sur ce voyage.
Oui, je pense qu'il est important. Comment fait-on le tour du monde dans les années 30 ? Parce qu'on s'imagine que les avions n'avaient absolument pas les mêmes capacités qu'ils ont aujourd'hui. Il y avait des relais. Comment une femme seule peut-elle arriver à trouver toutes les ressources matérielles pour faire ce tour du monde sur autant de temps ?
Oui, exactement. C'est pas du tout les avions d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se souvient du record qui avait été fait, où on peut réussir à faire un tour du monde, où on peut réussir à pratiquement faire un tour du monde sans se poser un peu plus d'une journée. En gros, c'est ça le schéma qu'on a en tête à l'époque. C'est pas du tout ça. Elle a pu économiser de l'argent, elle a pu se faire aider et acheter un monomoteur, un petit monomoteur. Donc, elle ne va pas très vite. Elle ne peut pas rester très 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 longtemps en l'air, elle ne peut pas prendre beaucoup de bagages et donc elle sait déjà au moment où elle s'envole le 4 décembre 1931 de Berlin pour aller en direction de l'Inde, elle sait déjà qu'il va lui falloir faire un nombre extrêmement important d'escales et qu'effectivement à chaque escale de nouveaux problèmes vont se poser. Problème d'autorisation de vol, problème de trouver les terrains où atterrir, problème d'essence Parce qu'évidemment, pensons-y, l'essence, ce n'est pas un bien si facile que ça à trouver, et notamment à cette époque, ce n'est pas toujours une chose qui est laissée au libre usage des voyageurs. Donc elle part, elle arrive en Turquie, elle repart, elle part vers Bagdad, elle arrive au golfe Persique, et là, elle est rechargée en essence, mais pas de chance pour elle, c'est une essence sale, donc ça va bloquer son moteur, ça va l'obliger à atterrir pratiquement dans une zone désertique, à marcher 150 km toute seule pour essayer de rejoindre la ville de Bushehr, où là elle va par chance rencontrer un pilote américain qui va l'aider, un voyageur écrivain qui va l'aider, Richard Halliburton, avec lequel elle va faire connaissance. Donc ils vont l'aider à ramener l'avion, à réparer, ils vont l'aider à trouver de l'essence, et enfin elle repart, elle peut atteindre Jalalabad, elle peut atteindre Calcutta. Et là, c'est un petit peu le côté amusant de cette époque, c'est qu'elle avait prévu un certain itinéraire en partant vers l'Inde, mais là on lui dit il faut absolument aller en Australie. Et elle se dit, ben oui, l'Australie, c'est pas bête, ça me ferait... Et donc, elle décide d'aller en Australie. Donc, elle est obligée de modifier son itinéraire, de passer par l'Indonésie. À nouveau, là, il se trouve qu'en Indonésie, on commence à entendre parler d'elle parce qu'il y a eu les articles successifs de ses aventures qui sont publiés dans les journaux. Donc, quand elle arrive à Batavia, par exemple, elle est célébrée comme la première femme qui pose un avion à Batavia. Il va lui falloir ensuite survoler la mer du Timor et puis se rendre enfin en Australie, où elle arrive finalement le 2 avril 1932. Vous imaginez déjà, rien que pour faire ça, l'aventure que ça a constitué. Et quand elle arrive en Australie, elle est une vedette. C'est-à-dire qu'elle est la femme aventurière allemande qu'on vient fêter, qu'on va aider. Et qu'on va aider à quoi? Qu'on va aider à gagner l'Amérique latine. Mais comment? Son avion n'a pas la capacité. Donc, pour faire le tour du monde en solitaire, en avion, en 1932, avec un monomoteur, on est obligé de prendre le bateau et de passer de Sydney pour aller jusqu'en Amérique latine, pour aller jusqu'au Chili. Et là seulement, elle peut recommencer à voler et elle va battre un record. Elle va être la première femme à passer au-dessus des 5000 mètres. Puisqu'il va lui falloir franchir les Andes. Mmh. Donc vous imaginez, c'est exactement ce type de, comment dire, d'exploits qui sont faits. Aujourd'hui, peut-être, ça peut nous paraître quelque chose de simple, mais il faut imaginer qu'à l'époque, avec son avion, elle manque, dans la traversée pour aller vers l'Argentine, elle manque à plusieurs reprises de s'écraser. Les courants d'air forts qu'elle rencontre ne sont pas supportables par son avion. Donc elle passe du Chili en Argentine, elle a comme ça des véritables, comment dire, des véritables exploits qui, vu d'aujourd'hui, n'ont pas l'air absolument énormes. Et pourtant, avec son petit moteur de 80 chevaux, hein, il faut se rendre compte, 80 chevaux, vous pensez qu'aujourd'hui, nombre de voitures ont plus de 100 chevaux. Donc, c'est une puissance toute petite. Et donc, elle réussit, grâce à cela, à passer, à remonter le long des Andes, à faire d'autres escales. Et puis, finalement, elle va repasser l'océan Atlantique. Et finalement, arriver en Allemagne.
Il se crée une véritable solidarité, finalement, autour d'elle.
Oui, moi, c'est ça qui me fascine dans cette époque de l'aviation. C'est comment ces hommes et ces femmes sont obligés d'aller vers l'autre. C'est-à-dire qu'on voit là, vraiment, avec Elie Beinhorn, comment l'aviation peut être un trait d'union. Comment cette idée de la liberté de l'air, de la circulation, de l'exploit, eh bien, c'est aussi un moyen pour rassembler les hommes. Ce n'est pas du tout uniquement la logique du record. Et c'est peut-être là ce qui est fascinant. Dans cette époque de l'aventure aérienne, c'est cette idée qu'on fait de l'exploit, mais on fait de l'exploit pour aller à la rencontre. Et pour faire l'exploit, on est obligé de trouver des partenaires, d'avoir des amis, d'avoir des gens qui se mobilisent pour vous, pour les fonds, et aussi en même temps pour tous les petits problèmes techniques qu'on peut rencontrer. Alors ça ne va pas l'empêcher évidemment de faire d'autres exploits, hein, de continuer cette carrière d'aventurière. Ce qui va peut-être changer pour elle, ça va être effectivement qu'elle va rencontrer un personnage qui va être, on va dire, l'homme de sa vie, en quelque sorte. L'autre type d'aventurier qu'on pourrait évoquer, qui est Bernd Rosemeyer.
Qui est Bernd Rosemeyer?
Bernd Rosemeyer, c'est justement ça qui est amusant. C'est le pilote de course d'une écurie allemande, Auto Union. Donc, on a l'aventurière des airs qui rejoint l'aventurier du règne automobile, de la course automobile. Et on peut dire en un sens que la voiture de Bernd Rosemeyer est peut-être plus puissante que les avions qui sont mis à la disposition de Elie Beinhorn pour faire ses courses. Mmh. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment le couple d'aventuriers presque rêvé par les médias pour l'époque, donc qui est en train de se former.
Mmh. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage La vie mondaine sous le nazisme, puisque vous évoquez cet épisode.
Oui, c'est la figure de Bernd Rosemeyer, elle a été très importante dans le Troisième Reich pour une raison assez simple, c'est qu'il va mourir en tentant de battre le record du monde de vitesse qui était détenu par la firme Mercedes. Donc c'est une mort tragique pour une figure qui est éminente. Pour mémoire, quand ils se rencontrent en 1936, au moment où ils décident de vivre ensemble et où ils vont se marier, c'est en plein Jeux Olympiques de Berlin. Mmh. C'est-à-dire qu'on est là, vraiment, j'allais dire, au cœur d'une espèce de configuration symbolique du Troisième Reich qui gagne. C'est-à-dire qu'ils organisent les Olympiques, elle revient de son voyage record, de son nouveau voyage des trois continents. C'est ça ce qu'elle voulait faire, montrer qu'une femme était capable de faire en un temps record et un nombre maximal de kilomètres sur les trois continents. Donc Europe, Afrique, Asie. Donc elle réussit ça, elle revient le 9 août, elle va se marier aussi au moment de ce triomphe que sont les Jeux Olympiques. Donc il faut vraiment penser à ça, comment l'aspect record, l'aspect femme à la pointe, le couple d'aventuriers se marie avec cette idée de l'Allemagne qui gagne et qui organise cette rencontre mondiale et cette légitimité mondiale que doivent donner les Jeux Olympiques au Troisième Reich.
Mmh. Alors avec Anna Reich, on passe dans un autre domaine. Anna succède à Elie Beinhorn, mais elle succède dans un tout autre contexte. Quelle approche de la guerre?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une phase de chevauchement. Au fond, elles ont toutes les deux été un peu formées dans les mêmes écoles. Anna Reich va se spécialiser, elle, au départ, dans le vol en planeur. Et elle va battre son premier record, en fait, qu'elle effectue dès 1932. C'est le record de durée de vol en planeur. Plus de 5h30 de vol en planeur. Et elle va organiser des expéditions scientifiques. C'est quand même un personnage exceptionnel. On n'en a pas conscience. Non seulement c'est quelqu'un qui a été formé à l'aviation, mais c'est une femme qui a une formation de médecin. Au départ, elle avait cette ambition de que l'un serve l'autre. C'est-à-dire que la médecine lui permette d'être servie par l'aviation. Et finalement, c'est l'aviation qui va prendre le dessus. Elle va y rentrer à partir de 1934 et elle va y rester jusqu'à la fin de la guerre dans le centre d'essai de l'aviation allemande, de la Luftwaffe. Mais il faut se souvenir que la Luftwaffe n'était pas autorisée au départ. Mmh. Donc elle rentre dans cette espèce de, vous savez, d'administration cachée de l'armée de l'air allemande jusqu'au moment où véritablement on va créer le ministère de l'air. Donc c'est à un moment donné une aviatrice civile, mais évidemment, comme elle est soutenue par la Luftwaffe, comme elle est dans cette administration militaire qui va être créée, eh bien, elle est surtout représentative de ce que vont être les ailes de guerre allemandes.
Alors justement, elle devient la première, ou plutôt le premier, s'il s'agit d'une fonction, le premier commandant de bord de l'histoire de l'aviation allemande.
Oui, c'est assez exceptionnel, puisque en 1937, donc Ernst Judet, dont on avait parlé tout à l'heure pour Elie Beinhorn, dont on a dit qu'il était présent au moment des essais des débuts en vol d'Elie Beinhorn, et bien Ernst Judet, qui est devenu inspecteur général de la Luftwaffe, va la faire nommer Flugkapitän, ce qui est vraiment le grade de commandant de bord qui n'avait été donné nulle part à une femme, et quelques mois plus tard, il va en nommer une deuxième, c'est Melita von Stauffenberg, de la famille de celui qui fera bien plus tard l'attentat contre Hitler le 20 juillet 1944. Donc il y a là une logique particulière de montrer que les femmes allemandes sont pas des aventurières, mais sont des patriotes qui sont prêts à risquer tout pour le régime. Parce que c'est bien ça qu'il faut voir derrière Anna Reich, c'est une femme qui veut servir le Troisième Reich, qui veut servir le nazisme, qui en est en quelque sorte l'enfant chéri, qui va pouvoir, grâce à cette position de première femme, effectuer des vols exceptionnels. Il faut penser que c'est la première femme en hélicoptère. Le Focke-Wulf 61 qu'elle va essayer, elle est la première femme à faire cela. Ensuite, elle va faire des essais extrêmement importants, notamment à partir de 1942, des essais, vous savez, de ces avions-fusées. pour essayer d'aller de plus en plus vite et de surprendre les adversaires, les alliés, ils essayent de mettre au point les premiers moteurs à combustion, donc qui puissent en quelque sorte servir à la fois de prototype pour des avions et de prototype pour des missiles. Et elle va être pilote d'essai pour cela. Il faut imaginer le nombre de morts que ça signifie. C'est-à-dire avant qu'elle-même ne monte dans l'avion, il y a déjà eu plusieurs hommes pilotes d'essai qui sont morts. Et au fond, si on lui confie cette tâche, c'est parce qu'elle a une vraie grande compétence de pilote d'essai. Elle l'apprend, elle prend en main les commandes et elle s'écrase. Mmh. Opération de chirurgie plastique, nez cassé, 5 mois d'hospitalisation, mais ça n'empêche pas de repartir. Et elle repart à l'assaut.
Nous n'avons pas évoqué, Fabrice, leur caractère. C'était des personnages aimables.
Je pense qu'Elie Beinhorn est quelqu'un d'assez attachant, d'assez charmant en fait, qui a réussi à chaque fois, à chaque étape de son existence, à faire de nouvelles rencontres et à attiser en quelque sorte l'amitié et la solidarité. Donc pour réussir à faire cela, elle avait forcément un caractère très liant. Ce qui ne devait pas forcément être le cas d'Anna Reitsch, qui donne une image un peu plus de premier de la classe, de personne qui est assez carrière-orientée, on dirait en allemand, c'est-à-dire orientée vers la carrière, mais avec ce que ça signifie en même temps de détermination et de volonté de servir. En même temps, quelques descriptions qu'on a d'elle la présentent comme une personnage assez sympathique, souriante en tout cas. Mmh. Donc ce n'est pas forcément la caricature de première de la classe qu'on pourrait imaginer, mais en même temps, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est très très polarisé et qui ne sort pas des actions qu'elle s'est fixées.
Mmh. Anna Reitsch survit à la guerre.
C'est presque miraculeux parce que entre les essais d'avions qu'elle a fait, les essais de fusées, son projet de faire des pilotes allemands kamikazes qui chevauchent des bombes et qui iraient les tirer directement sur les principaux établissements et les principaux points forts des alliés, elle réussit quand même à survivre à la guerre. Elle fait même la dernière semaine du conflit, au mois d'avril 1945, elle fait même un vol où elle va emmener le général Ritter von Greim de l'Allemagne du Sud jusqu'à Berlin afin qu'il rencontre Hitler. Elle est venue voir Hitler parce qu'elle souhaitait mourir avec lui dans le bunker. Et Hitler les reçoit tous les deux. C'est un épisode assez curieux d'ailleurs qui montre un petit peu sa capacité de conviction à Hitler. Il les convainc tous les deux qu'il a une arme secrète qui va lui permettre de gagner la guerre. Il nomme Ritter von Greim en remplacement de Göring à la direction de l'armée de l'air. Lui dit de repartir mobiliser les troupes dans l'Allemagne du Sud parce qu'ils vont lancer la fameuse grande contre-offensive qui va libérer le territoire allemand. Et il confie à Anna Reitsch une de ces fameuses capsules de cyanure, vous savez, enrobée d'une magnifique petite capsule dorée, et en lui disant qu'elle doit l'utiliser au cas où elle serait prise. Et en fait, quelques semaines plus tard, elle est arrêtée par les alliés. Elle n'utilise pas sa capsule de cyanure, et elle va être internée en camp pendant quelques temps avant d'être libérée. Elle reprendra le vol après la Deuxième Guerre mondiale. Elle aura même...
Parce qu'elle est née, rappelons-le, en 1912, donc elle est très jeune, elle n'a pas 33 ans.
Effectivement, elle est très jeune, donc elle reprendra le vol et elle aura même des victoires au championnat du monde de vol à voile, de planeur, hein, qui était sa première spécialité. Elle meurt dans les années 70 à 67 ans.
Et Elie Beinhorn ?
Elie Beinhorn, elle va décider d'arrêter de voler. C'est-à-dire que, si on voulait dire la fin de sa vie d'aventurière, elle l'a décidé d'elle-même puisqu'à l'âge de 72 ans, elle a décidé d'arrêter de prendre les manches d'un avion.
Eh bien, Fabrice d'Almeida, merci beaucoup. C'était les portraits d'un jour dans l'histoire consacrés aux ailes allemandes. Après Lindbergh, Saint-Exupéry et ses ailes allemandes, nous aborderons pour une prochaine émission le fameux Mermoz. À très bientôt.